Que Dieu soit béni. Encore ce matin, c'est vraiment en qualité de serviteur, en qualité pour venir vous servir, pour apporter la parole de Dieu en tant que frère. Dans la foi, alléluia, reconnaissant que moi aussi j'ai besoin de Jésus-Christ, j'ai besoin du Saint-Esprit parce que je ne suis pas encore arrivé dans la présence de Dieu. Et chacun de nous ici, on a besoin parce qu'on n'est pas encore là. On n'est pas encore là, alléluia. Ce matin, on va voir peut-être des choses que vous avez déjà entendues, sûrement. Je n'ai pas la prétention d'apporter de nouvelles choses, puis je ne suis pas là non plus depuis un dernier temps, plusieurs mois. Je ne suis pas là non plus pour épater les gens avec la connaissance, avec des choses, mais je crois que la parole de Dieu parle par elle-même. Amen, et c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un ce matin est venu pour apprendre de nouvelles choses, je suis désolé. Mais on va rester dans la parole de Dieu. Amen. Amen, hallelujah. Je pense que moi, pour ma part, puis notre part, je pense que je nassais d'un couvert à l'autre de ce qui est écrit. C'est déjà un défi d'être un enfant de Dieu. Amen, hallelujah. Donc, ce matin, vraiment, je veux aller dans cette direction-là, gloire à Dieu. Je ne sais pas si ce bord ici, est-ce qu'il y en a des nouveaux, il y en a que je ne connais pas, mais est-ce qu'il y en a des nouveaux que c'est la première fois dans l'Église? Non? L'autre salle, ils regardent, ils voient en même temps. Ouais, c'est merveilleux, la technologie. Je ne sais pas s'il y en a des nouveaux dans l'autre salle, mais je veux juste te dire une chose ce matin, c'est que tu es à la bonne place. On est à la bonne place. Mais pas juste pour les nouveaux, mais pour les plus vieux aussi. Amen. Hallelujah. On est à la bonne place pour se laisser, je dirais, laisser le Saint-Esprit venir à nos cœurs, à nous parler. Et vraiment, le but ce matin, c'est dans cette direction-là. Hallelujah. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble, puis après, on va aller dans la parole de Dieu. Papa, ce matin, nous te bénissons pour ta présence. Merci pour ton Esprit Saint, merci pour ta parole, merci pour qui tu es. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde sur nos vies. Père, je te prie ce matin que l'Esprit Saint puisse nous conduire ensemble. Je dirais dans le filon, dans les sentiers, Seigneur, auxquels, Seigneur notre Dieu, que tu veux que l'on marche. Père, je te prie de mettre une muraille de feu, une aide de protection autour de chacun de nos cœurs. Viens fortifier ce matin. Viens encourager chacun et chacune. Et papa, mets cette muraille de feu-là, que, Seigneur, autour de nos pensées, de nos cœurs, de chacun d'entre nous ce matin, que l'ennemi ne vienne pas enlever ou ne vienne pas perturber, Seigneur, la semence que tu veux déposer dans chacun de nos cœurs. Je te prie, papa, ce matin, que je puisse être un instrument utile en tes mains, avec mes forces, avec mes faiblesses, mais que tu puisses te glorifier, afin que ton Église, afin que tes enfants, afin que ton peuple, nous, Seigneur, puisse glorifier Jésus. Papa, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'avais dit mercredi que je posais des questions et j'en pose toujours et j'ai une question ce matin. Encore. Pour nous. Une ou deux questions. Si je posais la question ce matin, le but de Dieu pour ta vie, le but de Dieu pour ma vie, quel est le but de Dieu pour, je dirais, l'homme, pour l'humanité? C'est quoi le but? Et je suis à peu près sûr, la réponse qui aurait le plus de vote, je dirais, ou de direction serait, bien, c'est que je sois sauvé. Est-ce qu'on est d'accord avec cela? C'est que les hommes, que les êtres humains puissent être sauvés. Et c'est vrai. Mais Mais lorsqu'on médite la parole de Dieu, lorsqu'on scrute, qu'on vous savez, c'est pas juste de lire. La parole de Dieu dit, il dit pas lisez la parole, il dit méditez la parole. Amen. Il y a une différence entre lire la parole et la méditer. Lorsqu'on la médite, on creuse, on cherche, la parole de Dieu nous parle, notre esprit va s'ouvrir, il y a des choses qu'on saisit, qu'on comprend, puis qu'on réfléchit. Donc ce matin, c'est un message pour nous, c'est un message premièrement pour moi, mais le message va avoir son efficacité dans ma vie si ce n'est pas juste un message, mais que je le médite, que je le travaille, que je cherche, je dirais, la volonté de Dieu. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, on peut remarquer que Dieu a une façon d'agir. Amen. Dieu a une façon d'agir. Dieu va dire dans sa parole que vos voix ne sont pas mes voix et que mes voix sont au-dessus des voix de l'homme. Donc, Dieu pense pas comme nous, il agit pas comme nous, on peut dire merci Seigneur. Amen. Mais Dieu a sa façon à lui, je dirais, d'agir, de penser. Et ceci, lorsque nous méditons la parole de Dieu, on voit cela du livre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, du début et jusqu'à la fin de sa parole. Et je dirais que depuis le début de la création, depuis le début, je dirais, d'Adam et Ève, Mais de la création, parce que même quand Dieu a formé la terre, les cieux, il y avait un plan. Il savait déjà là même qu'il allait faire l'homme. S'il n'aurait pas fait l'homme, à quoi ça sert de faire une terre puis des cieux? Lui, il est esprit, donc les anges se promènent partout dans le ciel. Est-ce que vous me suivez? Donc, il avait déjà pensé à l'homme. Il avait déjà pensé à nous. Parce que Dieu avait un plan, il avait un but précis. Et ce plan-là, depuis la création, je dirais, a allé jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au temps que nous soyons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus, que nous soyons dans sa présence, Dieu a un plan. Ce plan est quoi? Ce plan, on pourrait dire, de sauver, oui, mais Dieu a un plan. Je crois un peu plus profond, c'est que Dieu a un plan de se révéler à ton cœur. Amen. Dieu a un plan de se révéler au cœur des gens, au cœur de l'humanité. Dieu a un plan fixe, je dirais. Être sauvé, c'est la conséquence, c'est le résultat de connaître Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ça va jusque-là? Être sauvé, to be born again, c'est la conséquence, c'est le résultat que Dieu s'a révélé à mon cœur, à ton cœur, à celui ou celle dans le cœur qui se tourne vers Jésus-Christ par la repentance. Et par la conversion à Jésus-Christ. Depuis le début des temps, c'est le cœur de Dieu de se révéler à l'homme. Mais l'homme, il est quoi? Il est rebelle, il résiste à l'Esprit de Dieu, il résiste à Dieu qui veut l'attirer à lui. Est-ce qu'il y a des rebelles ce matin? Ah oui, I'm the first one. Oui, Mike, t'as levé la main tout de suite, t'es le deuxième, Mike. La Bible dit que mon cœur, je ne sais pas pour votre cœur, là, mais la Bible dit que mon cœur, il est tortueux par-dessus tout. C'est pas parce que je connais le Seigneur que mon cœur, il n'y a plus de rébellion dans mon cœur, qu'il n'y a plus d'attitude. Encore aujourd'hui, Dieu veut se révéler à mon cœur pour transformer mon cœur. OK, depuis le début et encore aujourd'hui, c'est le plan. Mais être sauvé, c'est la conséquence de ce que Dieu s'est révélé. Donc, le but de Dieu, c'est se révéler. Jean 17, 3 dit quoi? Pour juste appuyer cela, Jean 17, 3 va dire, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, « Or, la vie éternelle, être sauvé, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Je sais qu'aujourd'hui, de nos jours, et de plus en plus, c'est pas le sujet. Je vais pas m'en faire éviter encore, mais il y a plein de sujets qu'on pourrait partager. Mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on voit dans les églises que le sujet, c'est le Saint-Esprit, puis l'onction, puis ce qui tape à l'œil, puis les guérisons. Est-ce qu'on est d'accord avec cela? La Bible nous met en garde, frères et sœurs, que notre focus ne soit pas juste là. L'Église est confuse aujourd'hui, de nos jours en général. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu le focus. L'Église aujourd'hui désire plus les manifestations de l'Esprit que l'auteur des manifestations. Je parle des vraies choses ce matin. Et je suis exposé à cela. Si je suis malade, je prie plus pour la guérison que de connaître l'auteur de la guérison. Est-ce que vous me suivez? Jean 17, 3 dit ici, il redirige notre focus. Or, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous savez, je peux être guéri, je peux avoir un paquet de choses qui se passent dans ma vie, je peux attribuer ça à l'Esprit de Dieu et ne pas connaître Dieu. Au bout de la ligne, nous, on voit sur la terre pour moi, me faire du bien. Mais Dieu nous aime tellement que lui, il voit notre éternité. Amen. Alléluia, qu'il nous veut avec lui. Qu'il nous veut avec lui. Le but de Dieu, premièrement, c'est qu'on le connaisse. Lui est Jésus-Christ. Comment on apprend à connaître Dieu? On mange une pizza 12 pouces avant de se coucher? Puis on rêve? Non! Ça, on appelle ça des rêves pizza. OK? Comment connaître Dieu? À travers sa parole. Pourquoi je sais que c'est des rêves pizza en passant? Bien, c'est parce que ça m'a déjà arrivé. OK? Comment on connaît Dieu? Comment on apprend à connaître Dieu, Jésus-Christ? À travers sa parole. La Bible dit, Jésus dit, et ce n'est pas les expériences, gloire à Dieu pour tout ça, mais à un moment donné, je vais te dire une chose, frère bien-aimé, sœur bien-aimée, cher ami. À un moment donné dans ta vie, là, tu vas venir tanner des fla-fla, puis tu vas vouloir avoir désiré quelque chose de vrai avec Dieu. Apocalypse va dire, je vais paraphraser, mais Jésus va dire à une des églises, tu fais tout à la coche, tout est beau, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Il dit, regarde d'où ce que tu es tombé, reviens sur tes pas, amen, repends-toi, tourne-toi vers moi, tu sais, j'enlèverai pas le chandelier que j'ai mis là, le Saint-Esprit. Alléluia! Donc, il y a un moment donné dans notre vie qu'il faut en arriver là. Puis Dieu, le temps d'en arriver là, toutes les circonstances qu'on vit, Dieu permet pour qu'on en arrive là, en fin de compte, qu'on crie à Dieu, puis Dieu, qu'on dise, Dieu, je ne veux plus rien savoir du restant. Ce que je veux, c'est toi. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Deuxième question ce matin, est-ce que nous croyons ou est-ce que tu crois dans ton cœur que Jésus, alléluia, est souverain sur toutes choses? Qui croit ça? Ce serait quasiment gênant de ne pas lever la main, hein? Tout le monde. Dieu est souverain sur toutes choses. Dieu est en contrôle de toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Dieu règne sur toute situation de vos vies et de ma vie, Et toutes les choses que j'ai passées, et toutes les choses qui sont à venir, jusqu'au temps qu'on soit dans sa présence, Dieu règne. Et même dans sa présence, Dieu règne. Amen. D'éternité, hallelujah. La définition maintenant, on peut dire, ah oui, je crois que Dieu est souverain sur toutes choses, mais qu'est-ce que ça veut dire être souverain? C'est important ça. Je peux le dire, mais est-ce que je comprends qu'est-ce que ça veut dire? Être souverain. La définition de souverain, c'est, ça veut dire, simplifié, qui a, qui possède, qui est l'autorité suprême. Alléluia! Qui est l'autorité suprême. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6, versets 12 et suivants, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. » Oh, ça c'est une autre chose qui pourrait être intéressante. Saisis la vie éternelle. Dieu nous donne la vie éternelle, mais ici, Paul va dire à Timothée, « Saisis-la. Si vous voulez me saisir, il va falloir que vous courez après moi. » Amen. Je ne vais pas plus loin, là. C'était une bonne, peut-être un sujet de méditation cette semaine. C'est quoi ça veut dire, « saisir la vie éternelle » Il dit, « Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ que manifestera en son temps le bienheureux et seul quoi? Souverain. Le bienheureux et seul souverain, Jésus-Christ, qui a la suprême autorité sur toutes choses. Le roi des rois et le quoi? Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu dit, « Je crois que Dieu est souverain sur toutes choses », avec la compréhension de ce qu'on vient de dire, de la définition, je dirais, de souverain, il y a quelque chose, il y a une compréhension qui doit se développer et de dire, « Si je crois personnellement, dur comme fer, hallelujah, que Dieu est souverain sur ma vie, je suis obligé de dire, donc, tout ce qui m'arrive est permis de Dieu. » Vrai ou pas vrai? Parce que si Dieu est souverain sur toute chose, ça veut dire qu'il contrôle toutes les situations de nos vies. Ça veut dire que s'il m'arrive de quoi, s'il t'arrive de quoi, autant la bonne chose que la mauvaise chose, que n'importe quoi que la maladie. Est-ce que Dieu est détrôné parce qu'il t'arrive une calamité? Il est souverain. Donc, si Dieu, je crois, si je crois que Dieu est souverain sur ma vie, donc tout ce qui m'arrive est permis de Dieu, parce que si Dieu ne le permettrait pas, ça n'arriverait pas. Donc, pourquoi ça l'arrive? C'est là. Parce que Dieu a un plan parfait qu'à travers ce qu'il arrive, il veut quoi? Se révéler dans nos vies. Afin qu'après cette révélation-là, c'est ça qui fait en nous, qui crée une action de grâce, qui crée de la louange, puis qu'on apprend à le connaître, puis on peut le glorifier, puis on dit « Seigneur, merci ». Amen. Je sais qu'on dit « Amen », mais c'est pas ça qu'on veut, là. Ça, la chair, elle veut pas ça. Mais c'est biblique. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que Dieu travaille. Oui, je veux que le Seigneur me bénisse, puis le Seigneur entreprend. J'ai même pas besoin de prier pour ça. La Bible dit, Préoccupez-vous premièrement du royaume des cieux, puis le restant va nous être donné par-dessus tout. Dieu sait. C'est bon de prier. La Bible dit de prier en toutes choses, tous nos besoins, mais à un moment donné, c'est bon pour moi. En tout cas, moi, ça m'encourage. Je peux aller plus loin. Juste à ne pas prier pour mes choses, mes besoins, mais à apprendre à prier pour les autres. Amen. Puis de prendre un recul, puis tout ce qui arrive dans ma vie, pourquoi ça l'arrive? Parce que Dieu veut se révéler à mon cœur. Pourquoi il veut se révéler à mon cœur? Parce qu'il veut que j'apprenne à le connaître mieux. Alléluia. Donc, il veut que je m'approche de lui. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Amen. Alléluia. Donc, tout ce qui est tout ce que m'arrive dans ma vie est permis de Dieu parce que si Dieu ne le permettrait pas, ça n'arriverait pas. Romains 8, 28 va nous dire, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon sa volonté à lui. » Est-ce qu'on est d'accord avec cela? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Nous savons du reste que tout concourt... C'est quoi tout concourt au bien? Mais c'est tout! Amen! Y a-t-il une définition pour tout? Oui, c'est tout! Autant les bonnes choses que les mauvaises choses. Qui veut les bonnes choses? Qui veut les mauvaises choses? Mais Dieu dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est Dieu qui déclare ça. Donc, ce n'est pas son bout à lui qui a une incompréhension. On est-tu d'accord que c'est notre bout à nous? On est-tu d'accord, bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, que c'est moi qui dois changer? Amen? Amen. Toutes ces gens-là qui ont dit « Amen » pour moi de changer, bien, on va virer ça de bord. Vous aussi, il faut vous changer. Amen. C'est pour nous. C'est pas juste pour lui qui est fautif. C'est pour lui aussi que ça va bien. Alléluia. Tout concourt au bien, toutes les situations, bien-aimés. On dirait quand on vieillit dans le Seigneur qu'on a tendance à oublier ça. Vrai ou pas vrai? C'est vrai. Et là, quand on oublie ça, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Au lieu que la grâce de Dieu, que la miséricorde de Dieu puisse être là, puis qu'on puisse expérimenter la liberté de l'esprit, puis la délivrance que Dieu veut nous donner, puis de marcher avec la joie puis la paix de Dieu, au lieu de tout ça, qu'est-ce qui prend place? Bien, c'est des frustrations. Vrai ou pas vrai? C'est des incompréhensions. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On va dire, ben oui, mais Daniel, écoute, je comprends ça, mais c'est le diable. C'est le diable qui fait le trouble. Oui, je suis d'accord. Mais qui permet au diable? Amen? Je suis d'accord avec cela. Je suis d'accord avec cela que c'est l'ennemi, que c'est le diable. Mais qui le permet? Est-ce que le diable est souverain sur Dieu? Ben non. La question est, c'est pourquoi Dieu permet cela? Et on va dire, ah, ben c'est le péché. Oui, mais pourquoi? Dans ma vie. Alléluia. Des fois qu'il y a des problèmes. Pourquoi Dieu permet cela? Bien-aimés, Jean 17, 3, on l'a lu. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi Dieu permet cela? C'est pour mieux le connaître. Pourquoi Dieu permet cela? C'est pour que je puisse le glorifier lorsque la victoire va arriver. Et pendant les défis aussi. Pourquoi Dieu permet des choses comme ça? Pour que je puisse apprendre à mieux le connaître en tant que sauveur. Amen. En tant que maître de nos vies. Dieu permet des situations dans nos vies. Pourquoi? Afin qu'il puisse se révéler à notre cœur comme celui qui nous protège, qui nous garde malgré l'adversité. Je ne sais pas là, si que ça donne toute une autre vision des choses, je pense. Hein? Dieu permet cela pour qu'on puisse le connaître. Donc, mon frère, ma sœur, si tu passes des temps difficiles avec toutes sortes de restrictions, on a envie des restrictions là, qui sont là. Est-ce que Dieu est détrôné par ça? Dieu est souverain sur tout ça. Qu'est-ce que l'Église de Jésus-Christ a de besoin? C'est la paix de Dieu. Amen. C'est la joie. Alléluia. C'est la direction de Dieu. Même si je sais tout comment faire les choses, c'est pas ça que j'ai de besoin. J'ai de besoin que... Êtes-vous comme moi que des fois, je sais faire ce qu'il y a à faire, mais je le fais pas? C'est la paix de Dieu que j'ai de besoin. C'est la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu que nous avons de besoin. La parole de Dieu dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ça veut dire qu'il ne se comprend pas. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu permet des choses. Il est souverain. Oui, l'ennemi, il y a des attaques. Oui, il y a des conséquences. Oui. Mais n'empêche que Dieu siège sur tout cela. S'il y en a qui... Encore qu'ils ont des doutes, puis ça chatouille un peu, bien, est-ce qu'on connaît l'histoire de Job? Est-ce qu'on connaît vraiment l'histoire de Job? Un petit devoir peut-être cette semaine, ceux qui veulent. Lisez Job. Et vous allez voir que le diable venait de parcourir la terre. Il s'est présenté dans la présence de Dieu. Il venait de parcourir la terre. Il n'avait rien remarqué. Tout était comme à l'habitude. C'est qui a rappelé à la mémoire du diable Job? C'est Dieu. Dieu a dit, « As-tu vu mon serviteur Job? » Le diable a fait, « Ah oui, oui. Ah ouais, mais il te sert parce que tu le bénis. » Mais c'est Dieu qui l'a rappelé. Allô? Pourquoi? Dieu a rappelé ça comme ça. Parce que Job était sur la terre. Et Job était intègre. Et Job priait Dieu, « Je veux apprendre à te connaître. Je veux te servir. Révèle-toi mon cœur. » Et Dieu a permis. Parce que l'épreuve nous apprend à connaître Dieu. Ça dépend de l'attitude avec laquelle on l'apprend. Et le diable a frappé la famille de Job, il a frappé sa santé. Même Madame Job, je ne sais pas son nom, la femme de Job, elle a dit maudit Dieu, puis meurt. Job n'a jamais voulu. Il n'a jamais voulu. Mais c'est Dieu dans sa souveraineté. C'est l'ennemi qui a agi, mais c'est Dieu qui a permis. Amen. Important. Ce qu'il faut savoir et comprendre, je dirais, c'est que le diable, Satan et ses démons, Dieu travaille pour se révéler à toi, à moi, aux êtres humains qui veulent bien se tourner vers lui, pour donner la paix et la joie. Et le diable, les démons, Satan, eux sont acharnés pour t'enlever ta paix et ta joie. T'enlever ta communion avec Dieu. Par toutes sortes de choses. Te faire croire que Dieu n'est pas là, que Dieu n'est pas en contrôle, que Dieu ne s'occupe pas de toi, ou carrément juste t'enlever le focus de sur Jésus-Christ en nous distrayant par toutes sortes de choses. Alléluia. Je vais juste prendre un texte ce matin. Ça, c'était juste le début. Là, on va commencer la prédication. Non, inquiétez-vous pas. Je veux juste prendre un texte ce matin dans l'esprit et la compréhension de Romains 8. Gloire à Dieu et le verset 28, vraiment, que Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux, hallelujah, qui sont appelés selon son dessein. Et on va regarder dans Actes des Apôtres, il y a une situation qui est arrivée là, qui est incroyable et qui nous enseigne. Et je veux juste ouvrir une fenêtre dans une direction, parce que lorsqu'on utilise ce texte-là, parfois, souvent, et lorsque j'ai entendu beaucoup, il y avait une emphase qui était mise dans une direction, mais on va découvrir un autre avenue, pas qu'il est meilleur, mais un autre avenue dans ce texte-là, c'est Actes chapitre 16, versets 11 et suivant. Hallelujah! Hallelujah! Papa, au nom de Jésus, Seigneur, nous nous apprêtons à lire, à méditer. Père, je te prie que ton Esprit Saint puisse toucher nos cœurs et apporter ta paix, ta joie, ta compréhension, viens changer mon cœur, changer nos cœurs, transformer pour la gloire de ton nom, par la puissance de ton esprit, Père, au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Acte 16, versets 11 et suivants. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, étant une femme craignant Dieu, elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, demeurez-y. » Et elle nous pressa, par ses instances. Gloire à Dieu. Donc ici, Paul, les amis de Paul, ceux qui étaient là, ils rencontrent une femme, Lydie, Dieu lui ouvre l'esprit, cette femme-là, à se repentir de ses péchés, à se convertir, elle croit à l'Évangile. On va dire, non, c'est pas écrit. Bien, c'est marqué après qu'elle s'est fait baptiser. Donc, ça veut dire qu'elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hallelujah! Là, et puis Dieu lui a ouvert son cœur. Là, il y a un miracle qui se passe. L'apôtre Paul, ceux qui sont là, ils bénissent le Seigneur, ils louent le Seigneur. Une femme qui s'est convertie. Gloire à Dieu. Bien, pas parce que c'est une femme, les hommes aussi, Dieu se réjouit là. Amen, OK? Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a une réjouissance qui est là. Gloire à Dieu. Et on continue notre lecture ici. Comme nous allions au lieu de prière, une servante, qui avait un esprit de python. Quand on dit ici une servante, ce n'est pas une servante du Seigneur, c'est une servante du diable, parce que lorsqu'on recule dans l'Ancien Testament, la Bible dit que Dieu a ça en horreur, tout homme, toute femme qui consulte les morts, qui fait la divination, des tarots, des cartes, c'est de la magie, c'est de l'idolâtrie. Hallelujah! Et pour le peuple de Dieu, c'est à ne pas toucher parce que Dieu déteste et Dieu n'accepte pas ça. Amen! Donc, cette femme-là ici a deviné un esprit de python et qui, en devinant la divination, procurait un grand profit à ses maîtres. Vint au-devant de nous. De qui au-devant de nous? Au-devant de Paul. Au-devant des gens qui étaient avec Paul. Et se mit à nous suivre. Paul et nous. Et elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut. » Est-ce qu'elle disait la vérité? Ben oui! Elle cria, « Ces hommes sont serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut! » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Mais Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à leur même. Cette femme-là, remplie de démons, crie à la foule, écoutez-les, ils disent la vérité. Mais remplis de démons. Je ne veux pas aller dans ma lignée de pensée, je n'ai pas le temps. Mais on veut rester dans le contexte. Donc, le démon, Paul chasse le démon. Gloire à Dieu, le démon sort. Paul avait prêché la parole, il prêchait que Jésus-Christ libérait peut-être, je ne sais pas, mais les gens se réjouissent, le démon est sorti. Ça prouve que la parole de Dieu, que Jésus-Christ est vrai. Mais regardez ce qui arrive après. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes quoi? Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. On recommanda au geôlier de les garder sûrement. Donc, Paul, Silas ici, sont humiliés, sont corrigés, sont battus de verges. On est-tu d'accord que ça ne va pas comme qu'ils veulent? Ils viennent juste d'expérimenter, eux, une délivrance de démons. Amen. Ils viennent juste d'expérimenter un salut de l'édit. Ils viennent juste d'expérimenter un mouvement de Dieu. Et là, ils se ramassent qu'ils sont battus. En plus de ça, ils vont se ramasser, et you, en prison. On est-tu d'accord à s'entendre qu'ils ont des défis? Amen. Qu'ils ont des contraintes? Qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent? Est-ce que vous me suivez? Qu'ils ont de la difficulté avec ce qui se passe? Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. La prison intérieure, c'est le trou le plus loin dans la terre. Tu as la prison extérieure dans le temps romain, tu as la prison extérieure, puis intérieure, c'était la place où c'était humide, c'est où que les excréments, tu n'as pas ramassé, là. C'était la pire place, juste en passant. Okay? Il y a une raison pourquoi c'est dit la prison intérieure, là. Yes. Ça aussi, c'est intéressant. Et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les, quoi, entendaient. Ils viennent de se faire battre, sont dans pire place qu'ils peuvent être, et qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent Dieu, ils prient Dieu, ils louent Dieu. Et souvent, des fois, bon, on a entendu, je vais vous apporter dans une autre direction dans quelques minutes qui me restent. On dit, bon, ben tu vis des choses, tu expérimentes des choses, tu as des difficultés, loue Dieu, adore Dieu, puis Dieu va t'en sortir. Et c'est vrai. Amen? On a tous entendu ça. Et c'est vrai. À travers, rain or shine, we gotta bless God. Qu'il pleuve, qu'il fasse beau, on doit louer, adorer Dieu. C'est ça, une partie pour laquelle on a été créé. OK? Donc ici, il loue Dieu, il adore Dieu. Et la Bible nous dit, tout à coup, se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ça tombe tout à terre. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer parce que les prêteurs, puis les gens, les magistrats d'autorité, on va dire, tu les gardes avec précaution. Et là, il vient de les perdre. Lui, il a dit, « Je les ai perdus, c'est sûr que les autres vont me tuer. » Il vient pour se tuer lui-même, mais en pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Même si Dieu a entrepris que les portes se sont ouvertes, les chaînes ont tombé, on est encore là. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Wow! Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, hallelujah, lui et tous les siens. J'ai dit mercredi qu'on ne se fait pas baptiser pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé, on se fait baptiser. Amen? OK. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes. » Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha maintenant, donc sortez et allez en paix. Et c'est là que je veux en venir ce matin. Je n'ai pas mis de titre, mais je veux nous entretenir sur un sujet, sur un terme, que c'est important d'avoir la bonne attitude pour connaître et comprendre le plan de Dieu. L'attitude. Dieu travaille nos attitudes. Amen. Nos attitudes de cœur. Je vais vous dire, on va lire ici, que Paul, d'après les Écritures, l'a quasiment échappé. L'a quasiment échappé. Oui, Dieu a sauvé Lydie. Oui, Dieu a délivré la femme de l'esprit de Python. Oui, Paul et Silas se sont fait battre. Ils ont été en prison. Et tout ce temps-là, Paul et Silas, la Bible nous dit, ils étaient joyeux. Amen. Ils chantaient des louanges au Seigneur. Paul était dans la victoire, Silas était dans la victoire. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait un but pour la vie de Paul et de Silas. Ce n'est pas juste les autres. Mais Dieu est un Dieu qui est personnel. À chacun de nous. Il veut se révéler personnellement. Regardez ici. Geôlier annonça la chose à Paul, puis il dit, « Bon, les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha maintenant, donc sortez et allez en paix. On vous a fait du trouble, on vous a battu, on vous a contrôlé, on vous a dit quoi faire, mais là, à cette heure, c'est correct, Paul, va-t'en, sauve-toi. C'est correct. » Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Regardez l'attitude de Paul. Mais Paul dit au lecteur, « Après nous avoir battus de verge, publiquement en plus, et sans jugement, nous qui sommes, quoi? Romains! » Nous qui sommes Romains. J'ai fouillé un petit peu, parce que j'ai accroché pour nous là-dessus. Comment ça, Romains? Le peuple disait que c'était des Juifs. Paul, il dit, nous qui sommes Romains. C'est comme Paul, il s'oppose, puis il dit, vous pensez que vous allez nous faire ça, nous qui sommes Romains, c'est? Il dit, vous allez avoir des conséquences. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Un Romain, la Bible nous dit, puis les études nous disent, bien, pas la Bible, mais les études, lorsqu'on étudie, nous laissent voir que Paul appartenait à 3 cultures, je dirais, les plus importantes dans son temps. La culture romaine, la culture grecque et la culture hébraïque. Son éducation, ses racines lui donnaient ainsi une largeur d'esprit et une polyvalence exceptionnelle. Lorsqu'il était même devant les rois, il pouvait parler ainsi, puis il avait accès devant les rois puis les magistrats. Pourquoi? À cause de son statut qu'il était romain. Parce que si tu n'étais pas romain, tu ne pouvais pas. OK? La citoyenneté romaine conférait 3 privilèges principaux. Premièrement, la citoyenneté romaine conférait 3 privilèges. Ces 3-là, c'est le droit de vote, le droit d'immunité contre les sanctions déshonorantes et le droit d'être jugé devant le plus haut tribunal de l'Empire. Qu'est-ce qui venait d'arriver aux yeux du public? Est-ce que c'était honorant ou déshonorant? Déshonorant. L'apôtre Paul, d'un coup sec, il dit, « Wow, attends un peu, moi je suis romain ici. » On pourrait-tu dire, nous, « Hey, attends un peu, moi je suis chrétien, moi ici. » Vrai ou pas vrai? J'ai des droits. Boys. Mais Paul dit au lecteur, après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison, puis maintenant ils nous font sortir quoi? Secrètement? Il n'en ne sera pas quoi? Ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. On va lui dire la vérité, nous autres. Est-ce que vous me suivez? Les lecteurs apportaient ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient quoi? Romains. Parce qu'ils pensaient que c'était des Juifs. Puis là, ça aurait été les lecteurs qui auraient eu des questions à répondre. Parce qu'à cause que Paul avait cette nationalité-là d'être romain, tu ne pouvais pas être humilié publiquement. Est-ce que vous me suivez? Ils vinrent, quoi? Les apaiser. Ils ont discuté avec Paul, apaisé Silas aussi, et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères, quoi? Ils partirent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, maintenant, pour nous? Attitude. La Bible dit que les ouvriers, les enfants de Dieu, on n'est pas plus que le maître. Vrai ou pas vrai? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec notre maître? Jésus. Ils l'ont battu. Ils l'ont humilié. Ils ont fait toutes sortes d'atrocités. La Bible dit que Jésus était conduit comme un agneau à la boucherie. La Bible dit que Jésus est notre maître, que c'est lui qu'on doit suivre. Je suis convaincu, l'apôtre Paul, le Saint-Esprit a calmé Paul. Il dit, « Hey, Paul, tu as expérimenté la bénédiction. Dieu s'est glorifié. Va pas tout gâcher ton témoignage. Va pas gâcher l'œuvre que je veux faire dans la vie des gens. Puis va pas gâcher l'œuvre que je veux faire en toi. Allô? Est-ce que vous me suivez? Église de Jésus-Christ, on crie pour toutes sortes de choses. Vrai ou pas vrai? En tout cas, moi. Vous pouvez dire « Amen ». Oui, Daniel, tu cries pour toutes sortes d'affaires. J'ai des droits. L'apôtre Paul ici, « Je suis romain. » Mais l'Esprit de Dieu dit « Non. » Dieu dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Amen. Alléluia. Et l'apôtre Paul ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en était au lieu de prière. Amen. C'est ce que la Bible dit. Ils ont cherché Dieu. Après ça, ça dit, ils sont partis. Avec la paix et la joie de Dieu. Parce que c'est Dieu, quand on est ses enfants, quand on reconnaît que si Dieu est souverain sur toute chose, tout ce qui m'arrive est permis de Dieu, donc si Dieu ne le permettrait pas, ça n'arriverait pas, ça nous donne la paix. Amen. Dieu organise-toi avec ça. Et je bénis le Seigneur pour ce matin, qu'est-ce qui est arrivé entre nos deux frères. Amen? Je sais qu'il y en a qui ne veulent pas dire amen, mais amen! C'est bon, parce que Dieu vient juste de prouver le message ici. Allez, c'est moi qui ai raison. Bertin, c'est moi qui ai raison. Est-ce que vous me suivez? Et là, on se fait du mal. Allô? Quand Dieu dit, laissez-moi ça entre les mains, mes petits garçons. Amen, ça va pour moi aussi. Hallelujah. Se tourner dans la prière, c'est Dieu qui nous défend. Amen. Savez-vous, le seul droit que l'enfant de Dieu a, c'est quoi? C'est de se soumettre à Dieu. Amen. D'obéir à Dieu. Bien-aimés, chers amis, ce que je veux dire, c'est que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et si vous êtes comme moi, à toutes les fois que moi je veux intervenir, moi je suis terriblement gauche. Je me mets les pieds dans un plat. Puis je frustre les gens autour de moi. J'en ai frustré, puis je vais encore en frustrer. Quand je veux intervenir, parce que je suis gauche, charnel. Est-ce que vous me suivez? Donc, j'apprends aux situations, lorsque ça arrive, de me reculer et de dire, « Dieu, interviens. Dieu, j'ai besoin de toi. Dieu, je ne suis pas en contrôle. C'est toi qui contrôles toute situation. » Amen.